Nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 janvier, sport matin dimanche. Fabien Gazot, bonjour.
Bonjour Patrice et bonne année à tous les sportifs ou amateurs de sport pour cette première de l'année 2026. On commencera avec le rugby. Niort s'est incliné contre Narbonne hier 15 à 23. Le NRC n'a pas tenu la distance face à un cador du championnat de national. En basket, Cholet peut décrocher un ticket pour la Leaders Cup s'il s'impose cet après-midi. À Gravelines, l'AS Niort a renoué avec le succès hier au terme d'une belle soirée à la Clameur. Les handballeuses Mokoutantaises ont mal débuté 2026 en s'inclinant contre Saint-Nazaire. On y revient dans cette édition. On évoque aussi le championnat régional de cyclo-cross UFOLEP. Ça se passe aujourd'hui à Châtillon. On parle tennis de table avec Guy Soulard, le président de la Romagne. L'actualité du judo club du Bocage-Bressuirais également. Au sommaire de cette émission, la 18e édition du Grand Prix historique de Bressuire aura lieu les 27 et 28 juin. Et puis on se projette aussi sur le défi Nos Pieds, Nos Limites qui aura lieu en juin avec l'un des initiateurs et participants, Sébastien Bichon.
Sport matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Le rugby donc pour débuter ce matin et la Champions Cup pour La Rochelle qui s'est inclinée à Dublin face au Leinster 25 à 24. Une défaite sur le fil pour les Rochelais qui ont encaissé une pénalité à la 80e. Rageant puisqu'ils pensaient avoir arraché la victoire quelques minutes plus tôt sur un essai de West. En national, vous l'avez peut-être suivi sur Colline. Hier après-midi, Niort a été battu par Narbonne 15 à 23. Aucun point de prix hier pour le NRC à Espinassou face à un poids lourd du championnat. Après une première mi-temps plutôt équilibrée, les hommes de Damien Neveu menaient à la pause 8 à 3. Mais le deuxième acte a été moins maîtrisé. Écoutez les propos du manager. Ils sont recueillis par Grégory Diguet qui commentait la rencontre sur Colline hier avec Jean-Marie Bidabin.
On savait que voilà, ça allait être un match de courageux. On a su, comme tu l'as dit, tenir des séquences longues en défense et faire preuve d'un tempérament, d'un caractère fort. Mais en deuxième mi-temps, une montée approximative, un peu moins de concentration pour un moment. On reste sous pression sur deux trois moments clés. Et face à des joueurs de cette qualité-là, des effectifs de cette qualité-là, c'est qu'on n'a pas de marge et on n'a pas le droit à ces petites erreurs-là, sinon c'est sanctionné dessus.
Et parmi les individualités narbonnaises, le centre fidjien Nakalevu était identifié comme une menace. Raphaël Sanchez, le centre niortais, a souvent croisé sa route hier après-midi.
Un profil, un gros porteur qui met beaucoup d'avancées, donc on savait qu'il allait nous mettre, qu'ils allaient jouer là-dessus. Après, je pense qu'ils l'ont bien joué aussi. Il a mis de l'alternance quand même, il a fait pas mal de passes dans le dos parce qu'il savait, à mon avis, qu'on allait se fixer dessus. Mais je pense qu'on l'a plutôt bien géré. C'est vrai que c'est un gros gabarit, mais je pense qu'on l'a plutôt géré au milieu du terrain.
La rencontre n'a pas été simple pour Narbonne, mais les hommes du capitaine Paul Belzon ont mis ce qu'il fallait pour venir à bout des Niortais.
C'était dur, ouais, on se le rend pas facile. On savait que Niort, c'est une équipe plus que valeureuse. Aujourd'hui, qui embête tout le monde dans le championnat. Mais bon, je suis content du groupe, parce que on a fait le match qu'il fallait. Ça n'a pas été facile. Je pense à la séquence, la première mi-temps, où on essaie d'avancer, mais ils nous mettent sur le cul. Mais on n'a rien lâché. On n'a rien lâché. Et c'est cet esprit qu'il faut garder. On savait très bien que ça allait pas sourire de suite. On savait très bien que voilà, c'est une équipe qui est vraiment costaud devant, qui suit bien aussi derrière. On savait très bien qu'ils allaient nous poser des soucis. Mais bon, aujourd'hui, voilà, je suis fier de mes mecs parce qu'on n'a rien lâché. On a gardé la tête haute et c'est passé aujourd'hui.
Narbonne vainqueur à Niort, donc hier après-midi 15 à 23 au classement, le NRC 8e dans un championnat qui compte 14 équipes. En rugby à suivre en Fédéral 3 cet après-midi, partenaire Royan. En Régional 1, Choret joue au Bousca. En R2, Nouvelle-Aquitaine, le COP 79 accueille Maron. Et puis en R3, Saint-Mexan joue dans le Bordelais à Bruges-Blanquefort. En football, c'est un week-end de Coupe de France et ça s'arrête là pour le SCO d'Angers, battu par Toulouse au tir au but hier soir. Pas vraiment de surprise dans les premières rencontres des 16e de finale. Ça passe pour 3. Amiens, Monaco, Strasbourg, Lorient, Laval et Reims qui verront les 8e à suivre, notamment aujourd'hui Nantes-Nice. Toujours en football, en National 2, le match de Choret a été reporté comme plusieurs autres. Sachez tout de même que Angoulême-Charente a battu Locminé, Saint-Colomban 2 à 0, Bordeaux a dominé Bayonne 1 à 0 en National 3 dans la poule où évoluent notamment les clubs vendéens. Sachez que le Poiré a fait un nul face au SCO d'Angers 0-0 et Saint-Philbert a battu Chauvigny 3-1. Quelques matchs en retard à suivre ce dimanche en football. Le Cerizet en quatrième tour de la Coupe Nouvelle-Aquitaine joue face au FC Comore. En R2 féminine, Bressuire joue à Limoges Foot. Et puis en R3 dans la poule A, le Bressuire accueille le SC Toircey. Un résultat à vous donner pour la poule B de R3. Gatifoot a battu Montcoutan hier soir sur le score de 2-1.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
On passe au basket en Betclic Elite. Cholet joue cet après-midi à Gravelines-Dunkerque à 17h30 et SCB a l'opportunité de se qualifier pour la Leaders Cup. C'était inespéré, mais Limoges a battu Chalon hier et a rebattu les cartes. Cholet Basket peut donc conclure un week-end qui a bien démarré puisque la victoire vendredi contre Tofas permet d'obtenir une belle à disputer mercredi en Turquie pour espérer donc aller voir un peu plus loin en Europe cette saison en BCL. Deux matchs charnières attendent donc les joueurs de Fabrice Lefrançois ces prochaines heures.
C'est une finale, ni plus ni moins. Mais après, sur le championnat de France, c'est encore long. Donc voilà, bien sûr qu'on aimerait participer à la Leaders Cup. Maintenant, encore une fois, on n'a pas le destin entre nos mains tout de suite, donc c'est pas un sujet. Et puis surtout, avant ça, je veux finir avec un bilan positif à la fin des matchs allés. Ce serait déjà une belle performance.
Début de réponse ce soir à 17h30 pour le coup d'envoi de Gravelines Dunkerque. Cholet Basket en Elite 2. Sachez que Poitiers a été battu à Évreux 85-80. Aujourd'hui, Nantes joue à Quimper en Wonder League. La défaite de Roche-Vendée 70-68 à Montpellier. Angers a été battu par Chartres à 61-70. En National 1 féminine, la défaite de Choret face au Centre fédéral 64-53. Sans doute pas mal de déceptions du côté de Choret qui espérait glaner une victoire face aux jeunes joueuses du Centre fédéral. En National 2 masculine, la Esnior a battu Brissac hier soir 93-70 devant près de 2000 personnes à la clameur. Les joueurs de Laurent Hay ont mis fin à une série de 4 défaites suite à un match pris par le bon bout et qu'ils ont dominé du début à la fin. Le capitaine Pierre Sellerier était ravi au micro de Grégory Diguet.
Gros soulagement après des mois compliqués, des mois de défaite. Ça joue à peu de choses. Là, on a enfin pris le match d'entrée. C'était important parce qu'il fallait bien commencer la deuxième partie de saison. Ça fait vraiment du bien. Grosse suite sur ce qu'on a fait de bien ce soir. C'est que le début, comme disait Oga, c'est que le début de quelque chose. Maintenant, si on ne produit pas tous ces efforts-là, ça aura servi à rien. Donc voilà, du soulagement, que du positif ce soir. Enfin, un match plein du début jusqu'à la fin. On va pouvoir profiter tous ensemble et on va vite se remettre au travail pour les prochaines étapes qui vont être tout aussi importantes parce qu'on a accumulé pas mal de retard.
Niort reste en effet avant-dernier dans ce championnat de National 2. Les basketteurs niortais ont réussi hier soir à l'image de Pierre Truffert, 24 points.
La manière est là, on était constant pendant 40 minutes et c'est un peu ce qui nous manquait sur la première partie de saison. Donc là, on peut dire qu'on a vraiment fait un match complet ce soir. Et le coach va être content de ce qu'on a fait. Et voilà. Juste une cohésion d'équipe qui est présente depuis le début, qu'on essaye de créer. Et là, on voit qu'elle a marché.
Grosse ambiance hein, hier soir à la clameur, vous l'entendez à travers les sons glanés par Grégory Diguet à la clameur donc hier soir et cette victoire de la Esnior face à Brissac 93-70 en prénat féminine à l'affiche à cet après-midi. Bressuire joue à Castillonne, Choret accueille Labrède. En R2 féminine, ça jouait hier soir pour le Pays Argentonais battu au Pays Mélusin 60-46. En R3 féminine, cet après-midi, le BC Cerizien accueille Étré et Parthenay joue à Noyer. En R3 masculine, la défaite du réveil hier soir à Chauvigny 80-78. Cet après-midi, la Chapelle Saint-Laurent accueille Neuville. On passe au handball en National 1 féminine, la victoire des Celloises contre Fleury 35-27. En National 2 féminine, la réserve celloise s'est imposée à Mérignac 36-27. Et puis Montcoutan a été battu à la Chênaie par Saint-Nazaire 32-37. Une occasion gâchée face à un concurrent direct pour le maintien. Le coach du SAM, Jérémy Astier, au micro hier soir de Laurent Guichetot.
On a deux temps faibles, hein. On a la fin de première mi-temps et le début de la deuxième, surtout le début de la deuxième qui est... Alors on est une de moins, mais ça te coûte cher. On fait des erreurs qu'on doit pas faire parce qu'on a identifié ça et après, ben, on oublie de courir, on prend des buts. Enfin là, c'est ça, hein, la deuxième mi-temps. Ouais, on jette des ballons, mais j'ai pas l'impression que ça soit réfléchi, je sais pas.
Pourtant, vous êtes à un moment donné, vous êtes à moins 5.
Ah, on revient. On a le mérite d'avoir eu le caractère de revenir. Après, à la fin, bah, t'es cramé. Mais surtout, les moments où il a fallu être tueur, on l'a pas été, quoi. Tu vois, en première mi-temps, on est à plus 2 et on finit à la mi-temps à moins 2. Et en deuxième, on a la balle, on égalise, on a la balle pour passer devant, je crois, à un moment. On a une balle pour mettre devant. Puis on se fait tuer derrière, quoi.
Et comment tu l'expliques, là, ces sautes de... Alors, pas de concentration, peut-être un problème physique, je sais pas, c'est quoi la cause.
Ouais, à mon avis, concentration, puis le fait qu'on n'a pas pu s'entraîner correctement non plus. Hein, on savait que techniquement, ça serait pas bon, mais bon, c'est la même chose pour elles ont eu les mêmes contraintes. Hein. Donc voilà, après, il faut qu'on bosse là-dessus. On est jeune et inexpérimenté à ce niveau-là, donc peut-être que c'est ça qui va expliquer. Mais on va vite falloir qu'on progresse parce qu'on n'a pas le temps, quoi. Même si elles sont jeunes ou inexpérimentées, on n'a pas le temps.
Jérémy Astier au micro de Laurent Guichetot après la défaite du Samandball hier soir face à Saint-Nazaire, 32 à 37 en volet. Deux matchs à vous annoncer. Ils ont lieu aujourd'hui pour le VB Peignor, chez les femmes à Plessis-Robinson et puis chez les hommes. Ça se passe à domicile et face à Mérignac. En tennis de table maintenant, la Romagne a battu Torigné-Fouillard 3-2 dans un championnat de Pro A vendredi soir. Le club de Guy Soulard est bien calé en milieu de classement cette saison. Vincent Nori s'est entretenu vendredi avec le président de la Romagne sur deux thèmes. D'abord l'essoufflement de l'effet des frères Lebrun qui, suite au JO 2024, avait mis le ping-pong en valeur et en effervescence, et deuxièmement sur les difficultés relationnelles avec la fédération Guy Soulard.
Alors la vague des frères Lebrun, elle commence à s'atténuer un petit peu partout. Il y a eu une vague au niveau du nombre de licenciés, pas chez nous, mais dans beaucoup de clubs en ville surtout. Les clubs de ville ont gagné beaucoup de licenciés. Et puis on commence à s'apercevoir, moi j'étais en réunion avec les autres clubs pro mercredi dernier, on a fait une réunion un soir en visio, et tout le monde faisait le constat que l'effet des frères Lebrun commence à s'atténuer. Il y a moins de monde dans les salles que l'an dernier.
Pourquoi ?
Parce que les gens ont voulu voir jouer les frères Lebrun, ils les ont vus jouer. En plus, ils viennent pas toujours. On sait jamais à l'avance s'ils vont être là, s'ils vont pas être là. Donc, on l'a vu nous l'an dernier à la Maillerée. Les gens sont venus voir les frères Lebrun et ils n'étaient pas présents. Donc, les gens se font un petit peu avoir une fois, mais pas deux. Et globalement, la plupart des gens motivés par le ping ont vu jouer au moins une fois les frères Lebrun. Ils se sont déplacés entre la Bretagne, les Pays de la Loire. Ils se sont déplacés, donc ils les ont vus jouer. Donc maintenant, il y a un effet qui commence à se tasser.
Ma question porte aussi sur les gens qui jouent au ping. Est-ce que ça a amené des nouveaux joueurs ?
Ça a amené des nouveaux joueurs dans les clubs l'an dernier, cette année aussi, mais ça commence à se tasser aussi. Parce qu'il y a un problème de capacité d'accès pour les clubs. Est-ce qu'il faut embaucher un éducateur en plus ou pas ? Donc il y a le problème du nombre de licenciés. Quand un club a, je sais pas moi, 150 licenciés et qui passe à 180, c'est pas les 30 licenciés supplémentaires qui vont financer un poste d'éducateur sportif. Et le problème, il est là pour les clubs.
On a passé une super soirée, le spectacle vivant, qui plus est quand c'est un spectacle sportif, nous on adore, sur les ondes de Colline et dans Sport Matin on adore. Et pourtant votre fédération, vous êtes un peu en guerre contre elle, quoi. Il y a une volonté de refondre les championnats, c'est ça ?
Oui, alors Gilles Herbe, le président, avec Christophe Legout et l'équipe fédérale veulent modifier totalement le championnat. Ils veulent diminuer le nombre de... Ils veulent mettre une poule de 10, mais sans match aller-retour. Ça veut dire que nous, on aurait seulement 5 matchs à domicile ou 6 matchs à domicile sur une saison entière. Donc les clubs ne sont pas d'accord. Économiquement, ça tient pas la route. Et il y a 8 clubs sur 10 qui sont contre le système. Et demain, on va à la fédération pour s'expliquer.
Et on peut supposer qu'en termes de visibilité, vous auriez tout à perdre.
Ah ben, on a tout à perdre. Eux, ils disent que moins on joue, ce sera un show. Bon, c'est l'argument de dire match exceptionnel, les gens vont se déplacer. Mais c'est faux. Nous, on sait très bien qu'avec les partenaires économiques, eh bien, il faut de la régularité. Plus il y a de la régularité, plus les gens se déplacent dans la salle et plus les partenaires économiques, on peut les solliciter. Là, s'il y a un quart de match en moins, le sponsor, il va dire, ben moi, je donne un quart de finance en moins aussi.
Toujours aussi passionné, Guy Soulard, président de la Romagne Tennis de Table au micro de Vincent Nori. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de Sport Matin Dimanche.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Merci de votre fidélité à Colline. La seconde partie de Sport Matin Dimanche, Fabien Gazot.
Et au sommaire de cette deuxième partie, l'actualité du judo club du Bocage Bressuirais avec Sébastien Gallas, le directeur la technique du club. On évoque aussi le championnat régional de cyclo-cross UFOLEP à Châtillon. C'est à partir de ce matin, 11h. La 18e édition du Grand Prix historique de Bressuire. Là, on se projette sur l'avenir, mais il se prépare déjà. Ce Grand Prix, il aura lieu les 27 et 28 juin. Au mois de juin également, le défi Nos Pieds, Nos Limites. On en parle ce matin avec Sébastien Bichon.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Le judo club de Bressuire, du Bocage Bressuire, accueille de nouveaux adhérents en ce début d'année. Il est encore possible en effet d'enfiler un kimono pour bien débuter 2026. Le club qui rayonne sur Bressuire, Neuil-des-Aubiers, Cerizay, Montcoutant et Courlet reçoit aussi bien des enfants que des adolescents et des adultes et dépasse actuellement les 300 licenciés. Le point sur l'actualité du club à travers cet entretien avec Sébastien Gallas, directeur technique du JCBB.
Nos jeunes là sont nombreux là sur nos différents sites. On arrive à regrouper des groupes assez conséquents sur les sections de Neuil-des-Aubiers, de Cerizay, de Montcoutant et de Courlet, et également bien sûr de Bressuire. Il y a une bonne dynamique qui s'affiche de la part des jeunes qui pratiquent différents entraînements par semaine. Et quand je parle des jeunes, je parle des plus petits, hein, de 6 à 11 ans, donc des prépoussins jusqu'à Benjamin, qui s'affichent aussi sur les compétitions au niveau des animations départementales, où on bouge du côté de Niort. On va avoir notre animation là sur Bressuire début février. Et ils sont plutôt motivés et puis intéressés par la compétition, donc ça fait plaisir à voir. Et preuve justement de cette dynamique, on les a déplacés sur Pouzauges début décembre et grâce à leur participation, on a réussi à gagner le trophée justement du club le plus représenté. Donc c'était une certaine fierté, ouais, pour eux et pour nous, c'est bien.
Alors, ils découvrent la compétition petit à petit, puisqu'adolescent, ensuite, c'est vraiment beaucoup plus compétitif, hein, évidemment.
Oui, bien sûr. Ouais. À partir de minime, on s'enclenche. Bah, déjà, en Benjamin, ça commence déjà avec déjà les premières compétitions officielles, avec les championnats départementaux, régionaux. Et c'est vrai qu'à partir de minime, c'est-à-dire à partir de 12-13 ans, et ensuite quand on va aller vers les cadets, là, on va avoir des tournois beaucoup plus poussés, où la concurrence est plus rude. Et là, justement, on déplace nos enfants sur les différents tournois. Donc, par exemple, Poitiers, Buxerolles, sur Nantes, sur Angers, et même après un peu plus loin, comme par exemple à Lormont, où justement nos jeunes s'expriment, mais notamment au niveau cadet, où on a des résultats qui sont assez conséquents avec Maëline Vangie qui arrive à décrocher de belles places, notamment beaucoup de titres en cadet, et commence aussi à s'exprimer au niveau des tournois juniors, même si elle est cadette troisième année.
Le judo club du Bocage Bressuirais a la structure suffisante pour pouvoir les accompagner, ces jeunes talents?
Nous, notre objectif, c'est de former justement les jeunes au plus loin possible au niveau de notre structure, hein, au niveau de Bressuire et des alentours. Après, nous, on ne cache pas, c'est que notre dynamique, on souhaite les accompagner au plus loin, notamment après avec le pôle de Poitiers, qui est capable après de les accueillir justement à partir de cadets, en offrant des entraînements tous les jours au niveau des jeunes. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on essaye de s'inscrire, c'est de leur donner envie et le goût de la compétition et après de les accompagner au mieux vers Poitiers. qui les accompagnent dans des entraînements bien plus poussés que nous. Hein. Et souvent, ils viennent après le vendredi soir s'entraîner avec nous pour pouvoir poursuivre après toujours la dynamique et on fait l'accompagnement des compétitions avec ces jeunes.
Alors, en ce qui concerne les adultes maintenant, ce sont surtout les nouvelles disciplines hein, qui permettent d'entretenir la dynamique du JCBB.
Oui, tout à fait. On se développe au niveau de nos différentes disciplines, avec notamment le taekso, donc qui est du renforcement musculaire et du cardio, qui fonctionne très bien depuis déjà plus de 15 ans, avec là ici Lily qui s'occupe de ça de façon très professionnelle et puis très aboutie, avec une bonne dynamique. On s'exprime aussi au niveau du jujitsu traditionnel self-défense, où on a beaucoup de femmes qui participent, et avec une forte demande justement dans cette discipline, notamment dans le self-défense qui est réalisé par Laurent. Et ensuite, on se développe aussi depuis maintenant 4 ans au niveau du jiu-jitsu brésilien, animé par Yann au niveau des adultes et par moi-même au niveau des enfants.
Alors le jiu-jitsu, par exemple, hein, c'est une variante hein, finalement du judo.
Alors au niveau, si vous voulez, du jiu-jitsu brésilien, là c'est une complémentarité avec le judo, où on va travailler spécifiquement la partie sol. Ça permet de travailler la motricité et la mobilité un petit peu différemment que le judo, apportant après plus de mobilité et de contrôle sans forcer finalement par rapport au judo traditionnel. Et donc c'est assez complémentaire pour nos compétiteurs qui pratiquent cette discipline. Pour le jujitsu traditionnel, on a justement des personnes qui se motivent après pour basculer un petit peu en judo traditionnel, hein, pour pouvoir après prétendre et mettre en place leur ceinture noire. Donc il y en a qui travaillent leur technique en judo et puis après qui passent leur kata pour pouvoir justement postuler à ce grade. Et par rapport au taekwondo, en fait, la complémentarité qu'il apporte, c'est vraiment après travailler le côté cardio-pulmonaire hein, qui apporte une endurance intéressante lors des compétitions et des prestations techniques aussi qui peuvent être assez longues à présenter devant un jury.
Sébastien Galas, directeur technique du judo club du Bocage Bressuret, qui développe en ce moment des partenariats avec les écoles primaires pour faire découvrir la discipline du judo dans les établissements. Il est encore temps de s'y mettre, pourquoi pas, bonne résolution 2026, s'y remettre même, Patrice, pourquoi pas. Ce judo connu il y a bien longtemps maintenant, mais ça ne se perd pas sans doute comme beaucoup de disciplines sportives. Ce qui ne se perd pas, c'est le vélo par exemple, en cyclisme. À Châtillon, surtout, il accueille les championnats régionaux UFOLEP ce dimanche. Si l'UFOLEP attache un peu moins d'importance à la compétition en règle générale que la fédération de cyclisme, il n'en demeure pas moins qu'il va y avoir du sport et de la bagarre dans le sens noble du terme sur l'hippodrome de Châtillon. Environ 120 coureurs sont attendus. Écoutez, Yannick Daubigny, il est la responsable de la section UFOLEP au club châtillonnais après avoir été longtemps président du club.
Ça fait déjà la 11e année qu'on organise des cyclocross à Châtillon-sur-Touée. Et puis cette année, c'était aux Deux-Sèvres d'organiser le championnat régional UFOLEP. Et nous avons posé candidature qui a été retenue.
Si l'épreuve est spectaculaire, et on le voit notamment à la télévision, il y a quand même assez peu de pratiquants finalement.
C'est une discipline un petit peu confidentielle, en plus qui se court l'hiver, donc dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Vous disiez qu'on voit à la télé, on a eu quelques images ces derniers jours où il y avait de la neige et tout ça. Là, heureusement, la neige est partie, et effectivement, mais ça sera bien boueux quand même. Mais ce sont des passionnés, ce sont des coureurs qui viennent pour rouler dans ces conditions-là, et ce sont des gens fidèles aux organisations qui vraiment sont présents. On utilise un hippodrome municipal hein, et on utilise ce grand espace et un petit peu les alentours pour tracer, un peu comme on le souhaite, un circuit. On utilise, effectivement, il n'y a pas de grandes montées, de grandes descentes et de choses comme ça, mais il y a des obstacles qui sont utilisés aussi par les attelages en particulier, hein, et on utilise ces obstacles pour faire un circuit qui sera quand même sélectif.
On est sur un circuit, les coureurs passent de nombreuses fois, il y a des rebondissements, c'est vraiment passionnant à suivre. Hein.
Oui, et puis en plus, l'intérêt de Châtillon, c'est que quand on est sur l'hippodrome, au bord de l'hippodrome, on a une vision quasi totale du circuit. On a une vision sur 90% du circuit. Donc c'est quand même très intéressant. Et pour celui qui le souhaite, ça permet de suivre la course dans de très bonnes conditions. Et on peut s'approcher auprès du circuit pour voir un peu comment ça se passe. Et je crois que sur un championnat comme ça, il y aura un peu de spectacle.
Alors, il y a un gros travail préparatoire. Hein. Vous y êtes déjà alors que les courses ont lieu dimanche. Beaucoup de bénévoles sont mobilisés.
Oui, bien sûr. Hein. Ben là, on est une bonne petite équipe. On est en train de tracer le terrain. Et voilà, on a bien avancé ce matin et on va continuer cet après-midi. On remet une petite touche demain et puis samedi pour l'installation après de la buvette, des stands d'accueil et tout ça. C'est un spectacle complètement gratuit. Quand il le souhaite, quand on le souhaite, le dimanche, à partir les premières courses ont lieu à 11h30. Donc, franchement, ils seront bien accueillis puisqu'il y aura un food truck, il y aura de quoi se restaurer, de quoi boire. Et s'il fait un petit peu frais, un petit peu de vin chaud et des crêpes et tout ça.
Les championnats régionaux UFOLEP de cyclocross, c'est à partir de 11h30, dans quelques minutes donc, avec un départ de la course principale à 15h du côté de l'hippodrome de Châtillon sur Thouée. En course à pied, les championnats de cross-country ont lieu aujourd'hui également dans la Vienne. Les championnats départementaux de la vie qui se déroulent donc à la fois pour la Vienne et les Deux-Sèvres sur un même site. Ça va se passer du côté de Mons-sur-Guienne. Ils sont organisés conjointement avec le comité du 86. Restez bien avec nous, la suite de Sport Matin Dimanche, c'est dans un instant.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
À Bressuire, Auto Rétro prépare déjà le prochain Grand Prix automobile. L'association présidée par Jean-Claude Fillon était en assemblée générale vendredi à la salle des congrès et évoque principalement la 18e édition qui aura lieu les 27 et 28 juin à Bressuire, autour de la place Saint-Jacques. Comme d'habitude, c'est un rendez-vous très prisé et populaire puisque 10 000 personnes viennent admirer les voitures de collection mais aussi les motos depuis quelques temps. Jean-Claude Fillon.
Parce qu'on a trouvé que c'était un sport mécanique, hein, bien sûr, et que ça avait sa place aussi au Grand Prix automobile, même si l'historique, c'est que c'était des voitures. Eh ben, ça fait aussi le bonheur de certains spectateurs qui sont voilà plus moto que voiture. Et puis, pour les voitures, on garde toujours nos quatre plateaux habituels, hein, tourisme, sport, cyclocar et monoplace. Et puis, tous les ans, on a un plateau invité. Alors, on se rappelle que l'an dernier, c'était les Coccinelles. Donc, cette année, on va changer. On va prendre une voiture Renault, la 4 chevaux, qui est née en 1946, donc on va pouvoir fêter cette année en 2026 les 80 ans de la 4 chevaux avec un plateau, j'espère, d'une dizaine ou d'une quinzaine de voitures. On fait un plateau spécial avec ces 4 chevaux qui étaient dans le plateau tourisme et puis d'autres voitures qu'on est en train de rechercher qui sont un petit peu plus performantes, un peu plus sportives et qui sont sur des bases de 4 chevaux mais qui sont des voitures qui ont couru notamment sur Le Mans ou des grandes courses comme ça et il en existe encore, donc on est en train de rechercher tout ça pour faire plaisir à nos spectateurs.
La préparation du prochain Grand Prix a donc déjà débuté, vous l'avez compris, et les questions sécuritaires occupent beaucoup de place. Elles sont aussi gourmandes sur le plan budgétaire.
On a un budget de 50 000 et les bottes de paille, je crois qu'on est à 4 000, plus la mise en œuvre, l'enlèvement, la main-d'œuvre, vous voyez, c'est à peu près 10% du budget, mais ça, c'est une contrainte de la commission départementale de sécurité, de la sous-préfecture, et on ne peut pas faire autrement. On est obligé de suivre les consignes.
Alors, 50 000 de budget sur une manifestation gratuite pour le public, ça veut dire qu'il faut aller chercher des partenaires, hein.
Ah bah oui, alors au niveau des partenaires, on a la chance d'avoir encore 180 partenaires qui nous suivent, qui nous soutiennent, malgré les 3 ans d'arrêt qu'on a eu par rapport au Covid, comme beaucoup d'associations. On est reparti, ça a été un petit peu difficile, mais on a réussi à garder tous nos partenaires et tous nos bénévoles. Donc voilà, nos ressources, c'est ça, l'engagement des pilotes qui payent un petit peu pour s'engager, parce qu'ils ont en retour une prestation. Et puis aussi, tout ce qui est nos ressources propres sur le circuit, sur le paddock, sur le site, c'est-à-dire la restauration rapide, la buvette, la boutique, etc.
Jean-Claude Fillon et Auto Rétro préparent donc la 18e édition du Grand Prix historique de Bressuire les 27 et 28 juin. On termine cette émission avec un nouveau défi de taille pour Sébastien Bichon. Nous avons déjà relaté ici même les exploits de ce de Sévrien amputé tibial. À dès l'âge de 4 ans, il a décroché en paracyclisme 5 titres de champion de France, est devenu 2 fois vice-champion d'Europe et surtout a décroché une médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000. Il a ensuite relevé de nombreux défis sportifs en pleine nature. Born to Ride en 2020, 1200 km à vélo en moins de 5 jours, à perte de vue en 2021. En guidant à la voix un non-voyant, chacun seul sur son vélo, Sébastien Bichon compte aussi à son actif 2 ascensions du Mont Blanc. En 2016 et 2019, le prochain défi se passera aussi en montagne et en équipe du 14 au 28 juin. Sébastien Bichon.
On fera 4 amputés d'une jambe, amputés tibiaux, c'est-à-dire entre le genou et la cheville, à se lancer dans le challenge de pouvoir parcourir le GR54. Le GR54, c'est le tour du massif des Écrins dans les Alpes. C'est à peu près un peu plus de 200 km à pied, 12 000 mètres de dénivelé sur 14 jours. Et c'est un véritable challenge dans le sens où, quand on est amputé, marcher longtemps, c'est-à-dire des jours et des jours avec une charge sur le dos, le sac à dos, du dénivelé, monter, descendre, bien c'est des contraintes fortes au niveau du moignon, donc de notre bout de jambe qui reste, dans la prothèse. Donc c'est vraiment là où est le challenge, parce que c'est vrai que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, comparé au Mont Blanc, puisque j'ai eu la chance de faire déjà par 2 fois l'ascension du Mont Blanc, eh bien c'est plus difficile dans le sens où voilà, les contraintes vont être plus fortes sur le moignon dans la durée. Et c'est là où il va falloir trouver les solutions. Donc les solutions, eh bien on a Alison, notre orthoprothésiste, qui nous accompagne sur ces 2 semaines. On a aussi un médecin qui pour qu'on puisse veiller à ce que nos jambes se portent bien et puissent aller au bout. Alors notre prothésiste, celle qui fabrique nos prothèses, elle est effectivement indispensable, mais c'est aussi elle qui a eu l'idée. Fin août 2024, nous étions déjà 4, alors 3 sur les 4 participants du défi qu'on a appelé Nos Pieds Nos Limites, le Tour de l'Oisans, et on était 3 sur les 4 à participer aux 24 heures du Mans à vélo. On était déjà sur un challenge pour montrer que même en situation de handicap, il est possible de participer aux 24 heures du Mans à vélo. Et notre prothésiste Alison était là. Et puis quelques jours après, nous avons un message disant qu'on avait vécu une belle expérience et qu'elle avait eu l'idée de partir sur un autre défi. Et donc c'est elle qui a eu l'idée du GR54, qui est un des plus durs d'Europe.
Alors vous êtes 4, vous-même Sébastien, oui. Bichon et 3 autres. Alors on va les citer, oui. Évidemment. Hein.
Bien sûr, tout à fait. Alors Stéphane Belot, lui, il habite Saint-Hilaire-des-Loges. Il est amputé depuis l'âge de 14 ans et il a, je crois, 46 ou 47 ans. On a ensuite Vivien Palu, qui lui habite Coulon, qui est amputé de mémoire depuis 2019 et qui est vite remonté un petit peu dans l'envie de vivre des choses malgré une amputation. Et il a 33 ou 34 ans. Et on a également Renan Gézéquel, qui lui habite du côté de Saint-Mexant. Et qui est amputé depuis à peine 2 ans, enfin seulement 2 ans, et donc là c'est aussi un gros challenge de pouvoir récupérer rapidement d'une amputation pour pouvoir se lancer dans un défi. Je trouve ça chouette qu'on ait pu former une telle équipe, parce qu'on a beau être tous les 4 amputés d'une jambe, on est tous les 4 avec un profil différent, avec aussi des contraintes différentes, un moignon différent, donc des spécificités différentes pour mettre au point la prothèse.
Il faut le financer, hein, ce défi, et c'est aussi l'un des objectifs du moment, au-delà de commencer à se préparer.
Oui, tout à fait. On a eu la chance d'avoir eu vent d'un trophée. Il s'appelle Trophée Aventure Ustive ITSoft. C'est une association Aventure Ustive et une entreprise ITSoft qui avance main dans la main pour pouvoir proposer des bourses pour financer des projets autour du handicap. Et donc le nôtre, on a postulé et puis on a été retenu. On est pour l'instant, on fait partie des 6 finalistes. Et parmi les 6, il va y avoir on va soutenir notre projet mardi prochain, le 13 janvier. Et d'ici là, on a aussi le vote du public est ouvert jusque, je crois, le 12 au soir. Et bien, donc, évidemment, moi j'invite tout le monde à voter pour notre projet. Et sachant qu'il y aura trois lauréats. Il y a deux bourses de 5000 euros et une bourse de 4000 euros. Et pour nous, voilà, c'est vital pour pouvoir, pouvoir financer, continuer à financer. On a déjà des partenaires, mais pas encore assez. Et on a encore besoin de financement. Et pour nous, c'est très, très, très important, évidemment.
Quel est le financement, le besoin de financement pour ce projet?
Le besoin de financement, on est aux environs de 22 000 euros. Mais il y a notamment une des charges importantes, il y en a deux, hein, c'est les refuges, puisque on a fait le choix de ne pas bivouaquer pour avoir des sacs à dos qui soient moins lourds, pour qu'il y ait moins de contraintes et qui nous permettent d'être plus sûrs d'aller au bout, tout simplement, hein, parce que si on prend aussi le matériel de bivouac, on va avoir une charge trop importante qui risque de nous générer des contraintes trop fortes avec un risque de blessure élevé. Donc ça, c'est les refuges, évidemment, un gros budget. Et puis également, on fera un petit crochet, c'est prévu sur la fin du périple, on va faire un petit crochet en dehors du GR54 en tant que tel, pour aller voir ce qui se passe en haut de la barre des écrins, donc un sommet à un peu plus de 4000 mètres d'altitude. Et pour ça, évidemment, on va faire appel à des guides, donc il faut les financer également.
Vous arrivez à vous entraîner en commun ou pas vraiment? On a vu que vous étiez à peu près sur le Niortais, on va dire, grossièrement. Oui. Ça permet des entraînements ensemble?
On en fait de temps en temps ensemble, mais pas si souvent que ça, parce que on a chacun notre travail, nos contraintes familiales, donc on gère un petit peu comme on peut pour faire des entraînements. En tout cas, on s'entraîne tous, c'est important. Et puis on a fait surtout un bel entraînement collectif au mois de juillet l'an dernier, donc juillet 2025, on est allé faire le tour du massif du Néouviel en 3 jours, et là en autonomie totale, donc avec des sacs qui étaient aux environs de 15 kilos, parce que par rapport à un valide, on a des contraintes supplémentaires, c'est qu'on emmène par exemple une deuxième en voiture, un manchon supplémentaire, c'est en silicone. Donc on a une charge à porter plus importante qu'un randonneur lambda. Donc c'est pour ça qu'il faut tout peser, tout doit être bien millimétré. Et donc on a fait ce premier test ensemble, et c'est une très belle aventure, mais qui a aussi révélé des choses à travailler, notamment sur les prothèses.
Sébastien Bichon, à propos du projet Nos Pieds, Nos Limites, vous pouvez évidemment voter pour ce projet finaliste parmi 6 et 5 autres de ce trophée, direction la page Facebook Nos Pieds, Nos Limites. Il y a urgence, hein, puisqu'il faut voter, vous l'avez entendu, avant le 13 janvier, ça se fait très rapidement. C'est la fin de ce sport matin dimanche. Je remercie Patrice de m'avoir accompagné ce matin, et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h. Je serai cette fois-ci avec David pour tous les résultats du week-end. Alors, il n'y a pas beaucoup de football hein, ce dimanche et ce week-end, mais nous avons d'autres résultats à vous donner, que ce soit en rugby, en basket, notamment en volley aussi. Donc soyez bien au rendez-vous ce soir pour 3 rendez-vous, 18h, 18h30 et 19h. D'ici là, la rediff à 13h, et puis le podcast sera disponible d'ici quelques minutes sur notre site internet.
Bon dimanche. Matin dimanche de ce 11 janvier, vous a été présenté par Fabien Gazot.